estampe peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Christian Seiler. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'a fait Christian pour l'Église, ça serait un peu long. Je vais juste vous dire qu'il a été à la commission des ministères, on va revenir dessus, c'est-à-dire à cette commission qui juge si les candidats, à l'issue de leurs études, peuvent devenir pasteurs. Voilà. Mais auparavant, je vais lui laisser, d'abord je lui dis bonjour.
Bonjour.
Et je vais lui laisser nous indiquer deux ou trois engagements qu'il a eus par ordre d'importance décroissant ou croissant, c'est égal, hein, par ordre d'importance pour lui, pour vous. Qu'est-ce qui a été le plus important dans vos engagements ?
Alors j'aurais bien du mal à répondre.
Bon bah on en tire
deux.
C'est-à-dire
je ne suis pas capable de donner une. Je vais peut-être me fier plutôt à la chronologie. Alors il y a eu un engagement qui est un engagement politique puisque je suis ce qu'on appelle un boomer, c'est-à-dire j'ai passé mon bac en 68 et je me suis retrouvé dans le grand mouvement post-68ard ensuite.
Alors ça, si vous permettez, on va y revenir.
D'accord.
C'est prévu. Ce que je voudrais, c'est les engagements au niveau de l'Église, puisqu'on vient d'en parler.
Ah, au niveau de l'Église.
Alors, au niveau de l'Église, donc j'ai parlé de la commission des ministères, mais il y en a eu plein d'autres.
Oui.
Alors,
la commission des ministères, c'est quand même l'engagement qui m'a le plus marqué. Il a duré 9 ans et c'est vraiment une expérience absolument unique. Sinon, lorsque j'ai cru prendre ma retraite à Montpellier, j'ai eu plusieurs engagements, mais le principal a certainement été la présidence du conseil presbytéral à une époque importante, puisque c'est celle où nous avons finalisé le projet du carrousel. C'était la fin d'un long... comment dire, un psychodrame aussi, en partie dans la communauté réformée de Montpellier. Je suis arrivé heureusement au moment où ça a commencé à se calmer. Sinon, d'autres engagements dans l'Église, j'ai beaucoup apprécié à une époque d'être le président de la commission d'accompagnement de l'animation universitaire protestante parisienne, c'est-à-dire de suivre, d'accompagner les titulaires de ce poste, qui était en gros un poste d'aumônerie universitaire, même si à l'époque on n'aimait pas beaucoup utiliser ce terme. Mais c'était une expérience tout à fait enrichissante et pédagogique également, oui.
D'accord. Alors je retiens un enseignement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir prendre sa retraite à Montpellier, ou sinon on croit prendre sa retraite à Montpellier, surtout quand on est dans l'Église ou autour de l'Église.
Absolument, absolument. Surtout qu'avec Laurence, mon épouse, nous sommes arrivés à Montpellier, nous ne connaissions qu'une seule personne. Il se trouve que c'était le doyen de la faculté de théologie.
D'accord.
Donc je me suis retrouvé assez vite chargé de l'aide aux étudiants, voilà. Entre autres.
Bon, donc il y a le soleil à Montpellier, mais bon, les retraites à Montpellier ne sont pas paisibles, je peux vous le dire. Enfin, elles sont peut-être paisibles, mais disons qu'elles sont bien occupées.
Elles sont bien occupées, mais alors, c'est tant mieux. Hein.
Oui, bah tant mieux. Alors, on va voir le terrain sur lequel se fondent ces engagements. Donc, votre enfance. Alors, votre enfance, milieu protestant ou pas du tout ? Ou un peu ?
C'est partagé. En vérité, mon père, lui, était, je crois, totalement incroyant. Il a été orphelin très tôt et donc promené d'une branche de la famille catholique à une autre protestante. Et c'est surtout ma mère qui, elle, était une Suissesse de Suisse alémanique, qui, elle, était protestante. Et c'est elle qui a tenu à ce que nous ayons... à ce que nous allions à l'époque, ce qu'on appelait l'école du dimanche.
Oui.
Et donc, nous allons à l'école du dimanche et nous avons pu y aller parce que mon père, le dimanche matin, faisait son tiercé et le bureau du tiercé était juste en face du temple. Et donc, il acceptait de nous descendre. Et donc, j'ai suivi à ce moment-là l'école religieuse. Ma mère elle-même était protestante, mais ne fréquentait pas le temple. Il faut dire qu'elle avait la charge... et à peu près exclusivement parce que mon père travaillait beaucoup à l'extérieur. C'est elle principalement qui a élevé les 5 enfants que nous étions. Et on était quand même le soir, elle ouvrait la porte de nos 2 chambres qui donnaient sur le couloir. Il y avait une chambre pour les filles, elles étaient 2, il y avait une chambre pour les garçons. Pas de chance, nous étions 3, donc moins de place. Et on faisait la prière que j'avais appris à l'école du dimanche. Et encore aujourd'hui, j'entends avec émotion quand on chante « Mon Dieu, mon Père, écoute-moi ».
D'accord.
Parce que c'était ce que nous avons retenu pour faire la prière du soir.
D'accord. Bon, alors, une éducation finalement protestante. L'école du dimanche.
L'école du dimanche, le catéchisme.
L'entourage protestant, donc le pasteur, les copains, le...
Oui, au lycée, nous étions une petite minorité de protestants qui nous connaissions bien, avec quand même ce sentiment d'être quand même très minoritaire.
Ah ben, ça, c'est le sentiment de tous les enfants protestants. Oui. Moi, je sais que mes fils étaient les seuls protestants dans leur classe. D'ailleurs, il y en a qui le prenaient mal et il y en a qui le prenaient très bien. En général, je crois que les protestants le prennent très bien parce que...
Je le vivais avec un certain sentiment de supériorité, effectivement.
c'est ce que j'ai vécu. Enfin, pas moi personnellement, parce que moi, je n'étais pas protestante quand j'étais enfant. Mais mes enfants, notamment, se sentaient au-dessus des autres.
Voilà, mais de toute façon, nous habitions dans une cité qui avait été créée par le Crédit Foncier, donc... qui permettait à mes parents qui avaient de très peu des moyens très faibles. Quand je suis né, mon père était ouvrier. Quand on s'est installé, là, il était encore... il était ouvrier électricien avant de devenir comptable avec les cours du soir. Et on était quand même en ascension sociale. Et donc, là encore, par rapport à notre environnement, on se sentait un petit peu à part et un petit peu, il faut le dire, un peu supérieur.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans le protestantisme.
Voilà,
le protestant n'est pas humble en général. Enfin, il peut être humble, mais bon, il a quand même un certain...
Mais
bon,
ça,
enfin, on ne va pas critiquer.
C'est votre passé catholique qui vous fait dire ça. Non, nous, il y avait des choses objectives. Nous avons été les premiers à avoir le téléphone. Et donc, on était priés parce que ma mère était une très bonne chrétienne. On recevait les appels pour toute la cité. Et donc, c'est nous qui étions chargés d'aller chercher les personnes pour qu'elles viennent répondre au téléphone chez nous.
D'accord.
Et nous avions horreur de ça avec mes frères et sœurs.
Bon, alors effectivement. Alors après, bon, on va passer. Les engagements politiques. Alors, les engagements politiques, vous m'avez dit que vous aviez rejoint un groupe maoïste. Alors, d'abord, il faudrait peut-être définir, parce que je suppose que dans ceux qui nous entendent, il y en a un certain nombre qui ne savent plus ce que c'est qu'un groupe maoïste. Donc, rapidement, maoïste, ça fait référence à Mao. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots, parce qu'on ne va pas faire une discussion sur Mao, mais très rapidement.
Oui, surtout qu'en vérité, nous-mêmes, on ne s'appelait pas maoïste, on s'appelait marxiste-léniniste.
Ah.
C'est-à-dire, le parti dans lequel j'étais membre stagiaire, qui était un parti qui avait été interdit après 68, c'était le PCMLF, le Parti communiste marxiste-léniniste de France, qui était donc clandestin. Il se définissait par un attachement à toute l'histoire du marxisme-léninisme, et notamment, on se revendiquait stalinien.
D'accord.
Et nous considérions que le Parti communiste français était traître au communisme, parce qu'il avait renié le superbe héritage de Staline, qui était repris et par les Chinois avec Mao Zedong, et par les Albanais, avec Enver Hoxha.
Ça ne nous rajeunit pas, tout ça.
Et non, et nous, on avait pris en main le foyer des lycéens. J'étais en préparation, en prépa aux grandes écoles à Henri IV, et on diffusait en permanence Radio Tirana dans le foyer des lycéens à Henri IV.
D'accord.
Et donc il y avait les mouvements maoïstes, il y avait 2 grands mouvements. Il y avait le mouvement très austère, c'est celui auquel j'appartenais, dont la façade légale s'appelait les groupes Humanité Rouge. Et puis, il y avait les maoïstes dont on parle beaucoup plus, côté Gesmar et compagnie, qu'on appelait, les Mao Spontex, ou qu'on appelait ce qui était de la gauche prolétarienne, qui est devenue la nouvelle résistance populaire, qui, eux, étaient beaucoup plus j'allais dire, folkloriques et beaucoup plus actifs. Nous, ça restait très, très intellectuel. De toute façon, diffuser la pensée Mao Tse-Tung sur la montagne Sainte-Geneviève, ça relève d'une gageure.
Il faut y croire.
Nous n'avons eu aucun succès.
Et alors, l'évangile à ce moment-là, donc complètement de côté
Pas du tout, au contraire.
Ah bon?
Ah non, non, non. Pour moi, l'engagement politique, c'était la suite logique de mon engagement religieux.
Donc, pas d'athéisme?
Ah, pas du tout. Absolument pas. Non, non.
D'accord.
Moi, j'étais devenu maoïste, enfin révolutionnaire, parce que j'étais scandalisé par la façon dont le capitalisme,
oui,
abîmait l'homme et la société. Et je pensais qu'il fallait refonder la société, qu'il fallait créer un homme nouveau. Alors, ce n'était pas l'homme nouveau selon Paul,
oui,
mais c'était l'homme
selon
nouveau
l'apôtre Paul, oui,
selon la révolution culturelle. Mais donc, pour moi, il y avait une logique. Et d'ailleurs, le dimanche matin, j'étais professeur d'histoire de l'Église pour les catéchumènes dans la paroisse assez bourgeoise dans ma paroisse d'origine, qui était la paroisse d'Anguin-Montmorency.
Et le savez, là, dans votre paroisse assez bourgeoise, que vous étiez Mao?
Non, non, non.
Non, non.
Et mes parents ne l'ont jamais su non plus.
Ah, d'accord.
Ah non, 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 je vivais ma vie à Paris, j'étais interne à Henri IV après le baccalauréat.
D'accord.
Et donc, mes parents ont toujours ignoré cela.
Et alors, le fait que votre père ait été manuel, ait été un ouvrier, est-ce que ça a joué un rôle dans votre adhésion à la révolution culturelle? Puisque, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette période, que Mao avait mis en place la révolution culturelle en Chine,
ouais,
et où il y avait une épuration des intellectuels. On les envoyait bosser comme manuel.
C'était pas une épuration, c'était c'était la rééducation des intellectuels au sein du,
oui,
peuple.
D'accord, mais enfin,
pas du tout, parce que mon père, en vérité, n'était pas un manuel.
Oui.
Mon père avait été obligé de faire beaucoup de métiers manuels parce qu'il n'avait pas pu aller à l'école.
Hein, ouais.
Mais il est devenu comptable, comme je l'ai dit, parce,
d'accord,
qu'il a suivi des cours du soir. Au moment où l'informatique est arrivée, il a essayé de devenir informaticien. Mais là, je crois qu'il n'avait pas les bases théoriques suffisantes. Mais c'était un... Non, 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 c'était un... Il avait au contraire une intelligence, je pense, intellectuelle, aiguë, qui a été reconnue dans son travail plus tard. Il a fait des remplacements de direction, alors qu'il n'avait absolument pas les diplômes. Lui, il croyait fortement à l'intellectuel. Et
d'accord,
nous sommes cinq enfants, on est tous été priés d'avoir le baccalauréat, et nous avions intérêt à avoir de bons résultats. Et c'est pour ça que mon père a fini par me couper les vivres.
On verra ça, peut-être, on y reviendra, mais je voudrais qu'on reste justement sur l'histoire intellectuelle, révolution culturelle, parce que bon, la révolution culturelle n'était pas tendre pour les intellectuels. Alors, vous étiez un intellectuel, vous l'avez dit, Henri IV. Bon, comment avez-vous vécu cette contradiction en étant intellectuel vous-même, en aspirant en voulant devenir vraiment encore plus un intellectuel, militer pour un parti qui, en Chine, envoyait les intellectuels, au champ cultivé.
Oui, oui. D'abord, il faut dire que l'expérience maoïste, elle a duré un peu plus de 2 ans. Hein.
D'accord.
Quand j'ai quitté la Cagne, c'était terminé.
Ouais.
Et j'ai trouvé d'autres centres d'intérêt, notamment ma vie sentimentale à ce moment-là. Le lycée Henri IV, les préparations n'étaient pas mixtes. Hein. C'était vraiment pas drôle. Et donc, j'ai découvert l'amour, entre guillemets, en sortant.
Donc là,
il y a toujours une certaine logique. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours été un peu fasciné par une certaine perversion des intellectuels qui n'ont parfois d'autres soucis que de dénigrer justement les intellectuels et l'intellectualisme. Hein. Il suffit de voir comment toutes ces personnes qui sortent des grandes écoles disent qu'il faut absolument les supprimer.
Oui, une fois qu'ils en sont sortis.
Une fois qu'ils sont sortis, alors qu'ils en sont les fruits.
Oui.
Et dans l'histoire, et on ne voyait absolument pas, nous, les... pas le génocide, mais on peut presque parler de génocide.
Oui, il y a eu...
Le massacre, c'est
oui,
très important. Nous lisions Pékin Information, qui naturellement ne lisait pas cela.
Bien
mais
sûr.
C'était, on était le fait de la... l'idée, c'est pour ça que je dis bien, c'est la rééducation des intellectuels au sein du peuple. Ça nous paraissait être, c'était théoriquement une idée que moi je trouvais séduisante, justement.
Oui, parce que qu'est-ce que vous avez appris? Vous m'aviez parlé de méthode, en fait, de raisonnement, de...
Il y avait la dialectique révolutionnaire, effectivement. Il y avait le principe des contradictions, comment il fallait, dans une situation, repérer la contradiction principale et les contradictions secondaires, et comment c'était en résolvant la contradiction principale que l'on pouvait résoudre les contradictions secondaires.
Et ça, c'est une...
Mais tout ça, c'est très théorique.
C'est une théorie du maoïsme.
Ah oui, tout à fait, oui.
Ah oui,
oui.
Ah mais c'est intéressant, ça, cette idée de résoudre d'abord la contradiction principale. Même si ça peut sembler évident, c'est pas toujours évident quand on est dans le feu de l'action ou dans la réflexion.
Absolument, oui. Mais c'est pour ça que je dis bien que pour moi, je ne voyais pas de contradiction entre ma foi, je continuais à être croyant, et puis le marxisme-léninisme qui m'offrait une grille de lecture de la société pour pouvoir justement faire évoluer cette société. Et même le principe, alors on reprochait beaucoup au Parti communiste d'avoir renoncé à la dictature du prolétariat.
Oui. Puisque alors la dictature du prolétariat, expliquez un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas ça.
Oh ben pour simplifier, mais c'est...
en simplifiant une minute sur la dictature du prolétariat, pas plus.
Pour nous, la démocratie bourgeoise, en vérité, était le masque pour la dictature du prolétariat. Et qu'en vérité, pour la dictature de la bourgeoisie.
De la bourgeoisie, oui.
Et donc, si on voulait mettre fin à cette dictature, en gros, il fallait une autre dictature, voilà. Sachant que comme le prolétariat n'avait pas par exemple, ne détenait pas les moyens de production et n'avait rien à défendre, en établissant sa dictature, il rétablirait une égalité entre tous les hommes, et les moyens de production appartiendraient à ce moment-là à l'ensemble de la collectivité.
Et on arriverait à une société,
idéale, juste.
Presque le royaume de Dieu, en fait.
Ben, exactement, voilà.
Et donc, vous attendiez, en fait, le royaume de Dieu par ce moyen-là. Vous y croyez vraiment ou...
À l'époque, je pense pas. C'est rétrospectivement que je me dis ça. Mais le point de départ, c'était vraiment la révolte contre la société capitaliste. Et c'était arriver à la détruire. Le point d'arrivée, le communisme intégral, chacun selon ses besoins...
C'était
à long terme.
Oui, parce que le communisme intégral, moi j'ai vécu aussi dans ces idées-là. Mais quand on est paulinien, quand on lit l'apôtre Paul, puis quand on est protestant, qu'on a lu Calvin, qu'on connaît Calvin, on a l'idée quand même que l'homme n'est pas très très bon, qu'on est sauvé que par la grâce de Dieu, et que finalement, ça... Alors, il y a l'idée de justice qui va bien avec, mais l'idée de l'homme... arriver à mettre une société juste?
Par exemple, pour l'homme, c'est pour ça qu'il fallait rééduquer les intellectuels au sein du peuple.
Ouais.
C'était pour qu'ils deviennent nouveaux, pour qu'ils deviennent meilleurs. C'était pour qu'ils deviennent des hommes nouveaux. Je dois dire que d'abord, Calvin, très honnêtement, je ne l'avais pas lu à l'époque.
Oui.
Et même Paul...
Pas beaucoup non plus.
Non.
Oui, bon, on peut vivre sans.
Aujourd'hui, il y a le dernier, grâce au dernier livre là, sur Paul, l'enfant terrible du christianisme, c'est Marguerat, je crois, ou je ne sais plus, à vrai dire.
J'ai pas lu encore.
Il est passionnant. Moi,
je
pourrais presque dire qu'il m'a réconcilié, entre guillemets, avec Paul, avec une lecture historique, en montrant comment il y a une évolution, comment il contextualise la pensée de Paul, qui devient, à mon avis, beaucoup plus supportable. Parce que je dois dire que jusqu'à peu, je le considérais comme assez insupportable.
Eh bien, il faudra peut-être nous faire une chronique pour en parler ici. Non, c'est sérieux. Hein.
Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi.
Il y a des gens beaucoup plus compétents, mais
qui pourraient le faire.
On va voir. Je retiens. Donc, pendant toutes ces années-là, vous êtes toujours dans le protestantisme. C'est rare de trouver des gens engagés dans la foi et en même temps dans la révolution. Enfin, vous êtes le premier que je trouve en général. Les gens qui sont engagés dans les processus de révolution mettent un peu de côté.
Ah, dans ma cellule, il y avait un fils de pasteur.
Oui, alors il y a eu une période comme ça, effectivement, où le protestantisme s'est aussi beaucoup engagé.
Il me semble, oui.
Oui.
On a des exemples à Montpellier.
Et alors, vous étiez vous étiez donc dans des études de lettres, des études
de... Oui, de lettres classiques.
Voilà. Vous avez étudié les philosophes. Et ça vous a amené à vous poser des questions par rapport, d'une part, à votre engagement politique et d'autre part, à votre engagement chrétien, protestant.
Alors j'avoue que la philosophie n'était pas mon point fort.
Ouais.
Moi, mon grand amour, c'était l'Antiquité, les religions de l'Antiquité.
Ouais.
Et en plus, ensuite, grâce à mon épouse, j'ai découvert la Grèce contemporaine. Et là, ça a été une révélation. On le verra dans le choix musical.
Eh bien, voilà, justement, on y vient. Donc, vous nous avez choisi une chanson grecque. Dites-moi, parce que ça sera plus simple, plutôt que je répète mal ce que vous m'avez dit.
Alors, c'est une chanson qui appartient au mouvement de ce qu'on appelle du rebetiko. Le rebetiko, c'est une musique qui est née, j'ai coutume de dire, en Grèce d'Asie, hein, ce qu'on appelle l'Asie mineure ou la Turquie aujourd'hui.
Ouais.
Il ne faudrait pas oublier que les Grecs sont installés là-bas depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ, que les Turcs sont arrivés bien après,
ouais.
Et que toute la côte a été grecque jusqu'à la grande catastrophe, pour
D'accord.
simplifier, jusqu'en 1920.
Ouais.
Et donc c'est dans la région surtout de Smyrne qu'est né le rebetiko, qui est une chanson populaire, qui est arrivée en Grèce continentale, surtout à partir du Pirée. Alors, parfois, on découpe, on dit qu'il y a une première période qui est la période smyrniote. Ensuite, il y a une époque de rebetiko du Pirée. C'était une musique des mauvais garçons qu'on chantait dans les musées d'opium.
On va écouter musique de mauvais garçons dans les fumeries d'opium. Donc, c'est tout un
oui,
programme.
Oui, alors là, c'est un peu différent. C'est une chanson qui a été écrite sous l'occupation allemande. Il faut le savoir, en 1941, par Vassili Tsitsanis. Là, c'est lui qui l'interprète. Et le titre est évocateur, c'est Sinéviasmeni Kyriaki, ça veut dire dimanche ennuagé, couvert de nuages.
Eh bien, nous écoutons donc dimanche ennuagé.
Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνεφιά. Χριστέ και Πατριστέ και Παναγιά μου που έχει πάντα συνεπιά, συνεπιά. Χριστέ και Πατριστέ και Παναγιά μου. Σε μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις στη ματώνεις στην καρδιά μου. Συνεπιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις στη ματώνεις στην καρδιά μου. Όταν σε βλέπω προχερή στιγμή δεν ησυχάζω, primo cani στη ζωή. Η ζωή και βαριανά και βαριανά στεναζώ. Μα πριμο κάνεις τη ζωή, η ζωή και βαριανά και βαριανά στεναζώ.
On se retrouve avec Christian Seyler pour la suite de notre émission. Alors, on arrive maintenant à votre engagement protestant que vous n'avez jamais quitté, mais que vous retrouvez ou que vous continuez donc à l'issue de vos études ou pendant vos études. Alors, est-ce que vous êtes resté en contact pendant ces années-là au temple, par la lecture, par la rencontre, par des aumôneries, par des choses comme ça, ou est-ce que vous étiez quand même plus éloigné ?
Non, il est clair que quand j'ai terminé mes études, d'abord assez rapidement, je me suis marié. Je suis devenu professeur un peu par la force des choses. C'est encore une autre histoire. J'avais trouvé un moyen pour me faire payer mes études, mais en échange, j'étais obligé d'être professeur pendant 10 ans.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé, puis j'ai continué naturellement. Je me suis marié, nous avons eu des enfants, nous sommes partis, comme tous les jeunes professeurs, même si nous avons été recrutés en région parisienne, nous sommes retrouvés en Bretagne, puis en Normandie, avant de revenir en région parisienne. Et c'est des années où je n'ai quasiment pas fréquenté j'avais fait une tentative une fois, je me souviens, à Beauvais, mais ça avait été assez triste pour un culte de maison. Parfois, pendant les vacances, il m'arrivait d'aller au culte à Saint-Raphaël, pendant donc en été. Et c'est vraiment quand nous sommes revenus en région parisienne que nous nous sommes installés à Marne-la-Vallée au moment de la création de la ville nouvelle. C'était une belle expérience aussi, un peu de pionnier. Ça m'a permis d'ailleurs de faire de la radio locale à ce moment-là.
Il
y avait une radio associative qui a été créée par des copains qui m'avaient embauché. Et là, j'ai repris contact avec la paroisse locale, celle de La Nichelle, qui est devenue La Nichelle Marne-la-Vallée. Et c'est là où j'ai vraiment renoué avec l'Église, puisque ensuite on m'a demandé de participer.
Alors effectivement,
dans les instances régionales.
Le marxisme a toujours soutenu que l'acquisition de connaissances, quelles qu'elles soient, n'était pas une fin en soi, mais qu'elle servait à être mise en pratique. C'est ce qu'on a parlé c'est ce dont on a parlé quand on a parlé du maoïsme. Et alors, est-ce que cette réflexion, est-ce que ça vous a aidé dans l'engagement protestant de mettre en pratique finalement toutes vos connaissances ?
Certainement, mais c'est une réponse que j'aurais du mal à motiver telle qu'elle.
Oui, c'est...
À vrai dire, mon expérience politique, elle est quand même très très limitée. C'était très intellectuel une fois de plus, les réunions de la cellule, qui étaient des réunions clandestines, on lisait des textes de Mao, il fallait, ce qui était très chic, c'était d'en savoir par cœur. Et ce qui manquait pas de piment, c'est qu'un des principaux ouvrages que nous lisions, c'était Contre le culte du livre. Alors c'était.
Oui, ça c'est effectivement.
On n'était pas à ce paradoxe près.
Oui, c'est très paradoxal, effectivement.
Mais mes expériences ensuite, c'était faire les manifestations clandestines à l'époque,
ouais.
Avec les rendez-vous dans le métro. C'était les distributions de tracts dans la rue, le porte-à-porte dans la.
ça fait engendrer des situations comiques.
Oui, 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 tout à fait.
Je vois très bien le genre.
Et, bon. Et donc, c'était...
D'accord.
Bon. Ma formation à la Sorbonne, et surtout après, à l'école pratique des hautes études, était beaucoup plus comptée, je crois, dans ma formation
d'accord.
intellectuelle.
D'accord. Alors, on va revenir sur vos missions dans le protestantisme. Donc, à la commission des ministères, eh bien, avec d'autres, vous décidez si telle personne peut ou non devenir pasteur.
Oui, c'est quand même...
C'est, voilà, c'est pas écrasant comme responsabilité. Est-ce que,
oui.
Est-ce qu'on doute de sa décision, surtout s'il y a un veto, si on dit non, tu peux pas être pasteur.
Est-ce bon, que... D'abord, c'est... Il faudrait dire que la commission des ministères ne fait pas que cela. Là, on a l'impression que c'est un tribunal qui juge. En vérité, elle doit faire preuve, c'est vrai, de ce qu'on appelle le discernement.
Mmh.
C'est-à-dire, elle doit vérifier, moi je dirais plutôt,
ouais.
que la vocation interne, ce qu'on appelle la vocation ouais. interne, c'est-à-dire le fait qu'une personne se sente appelée à exercer le ministère, correspond également à une vocation, à ce qu'on appelle la vocation externe, c'est-à-dire à ce dont l'Église, en l'occurrence c'était à
oui.
l'époque l'Église réformée de France, a besoin. Ça déjà, c'est, il s'agit plutôt de voir une adéquation entre un projet personnel et le projet de l'Église.
Oui, ce n'est pas un jugement de valeur sur
absolument,
la personne.
Absolument pas. Et surtout,
d'accord.
il y a tout un processus d'accompagnement, puisque la commission des ministères prend en charge l'étudiant en théologie au niveau de la licence. C'est-à-dire, il va y avoir la licence, les deux années de maîtrise, les deux années de en plus, c'est à l'époque, on est passé d'un an et demi à deux ans de proposana.
Ouais.
Et ensuite, c'est une décision... alors, c'est vrai qu'en dernier recours, c'est la commission des ministères qui a délégation du synode national. C'est la seule commission, d'ailleurs, qui ait vocation de décider.
Oui.
Mais, alors, pour revenir à votre question, c'est clair que individuellement, jamais je n'aurais pris la responsabilité d'une telle décision. C'est une décision collective, c'est-à-dire que il y a toute une série d'entretiens pour passer au stade suivant, et il y a des majorités plus ou moins qualifiées qui sont exigées. En général, d'ailleurs, la commission se prononce à l'unanimité.
Ah oui.
Parce que les membres discutent entre eux.
Ouais.
On ne prend jamais la décision juste après l'entretien.
Ouais.
Les décisions sont réservées à la fin de la session, c'est-à-dire une fois que les différents candidats sont passés, puisque ça se passe sous la forme d'un entretien qui est dirigé par un des membres de la commission qui a étudié plus d'un peu plus près que les autres les dossiers
ouais.
que nous avons reçus un mois avant. Il y a tout un travail de préparation. On prépare également l'entretien avant que l'entretien n'ait lieu, c'est-à-dire
oui,
on
sûr.
Décide des questions.
Mmh.
Celui qui est en charge de l'entretien dit voilà, moi je compte mener l'entretien de telle manière, et les autres membres lui disent voilà, moi j'aimerais poser tel type de question à tel moment et à tel moment. Et donc c'est vraiment une œuvre collective.
Il y a beaucoup de refusés. Enfin, dans le moment où vous étiez...
À l'époque, moi, j'y suis resté 9 ans, donc de 1998 ouais. à 2007, il y avait assez peu de refusés.
D'accord.
Mais il faut dire que le rôle du président de la commission des ministères, c'est aussi de procéder à un premier tri. Alors, c'est pas très démocratique, mais,
oui, mais il faut
on n'est pas très démocrate.
Voilà.
Sinon, il y aurait trop à faire. Il y avait quand même beaucoup de gens. Et il y avait vraiment des candidatures qui sont tellement... Évidemment, qui ne correspondent
pas. Qui ne correspondaient pas, oui,
église.
Oui, oui, oui.
Mais oui, il y a eu quelques refus qui sont toujours motivés. C'est-à-dire, quand quelqu'un est refusé,
oui, bien sûr.
Il peut toujours. Il rencontre d'abord le bureau, dont je faisais partie en tant que secrétaire. Et puis, il y avait éventuellement une commission d'appel, dont j'ai fait partie également après avoir quitté la commission des ministères. Après.
D'accord.
C'était la CDM.
Et alors, vous avez aussi quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le diaconat. Vous allez le dimanche matin, m'avez-vous dit, préparer des tartines avant d'aller au culte, des tartines de pain pour préparer des petits déjeuners.
Oui, ben ça c'est le travail de l'AFEP, de l'Association Familiale d'Entraide Protestante à Montpellier, donc qui est la diaconie de l'Église et qui a deux actions principales, ce qu'on appelle Babel Café, c'est-à-dire ce petit déjeuner du dimanche matin. où des volontaires viennent préparer le petit déjeuner, qui ne consiste pas qu'en des tartines. Mais c'est vrai que Laurence et moi, nous nous sommes spécialisés dans les tartines sucrées.
Il faut être spécialisé.
Ah oui, oui. Okay. Et puis les autres candidats, les autres membres, très souvent restent pour la distribution. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 personnes maintenant le dimanche matin qui viennent. Et puis un autre volet de l'action de la FEP, c'est Panier Babel. C'est une épicerie sociale qui, elle, fonctionne. Alors le mardi, c'est les commandes qui viennent de la banque alimentaire, qui sont réceptionnées, mises en rayon. Et le mercredi, c'est la vente. Et ça, c'est mon épouse qui en est responsable, avec, une fois de plus, des bénévoles issus ou non de la communauté protestante.
Voilà, alors la Fédération de l'entraide protestante, s'il y a des auditeurs qui se sentent, qui ont envie de donner un coup de main, ils peuvent s'adresser où, à qui ?
Alors, si pour Babel Café, mais alors là, j'ai pas les références.
Ils peuvent déjà s'adresser à la radio. Et puis, on transmettra.
Dans tous les documents de l'Église, dans la famille, il y a toujours les références de Pierre Ripstein pour Babel Café et de Laurence Seller, donc, pour Panier Babel.
Oui, et pour nos auditeurs qui ne seraient pas protestants, mais qui auraient envie de venir, eh bien, qu'ils s'adressent à la radio.
Merci.
Oui, on est là pour ça aussi. Donc, un protestant peut en cacher un autre @radiofmplus.org qui est notre adresse où vous pouvez réagir, nous donner des questions, des propositions et éventuellement venir participer, nous dire que vous avez envie de participer. Donc un protestant peut en cacher un autre, tout attaché, radiofmplus. Plus PLUS, hein, pas le signe, donc un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Alors, je remercie Christian Seyler et puis je remercie nos auditeurs que nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure. À la semaine prochaine à tous. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.